Le distancement caractéristique de l'être avec autrui implique que l'être-là se trouve dans son être en commun quotidien sous l'emprise d'autrui. Il n'est pas lui-même, les autres l'ont déchargé de son être. Les possibilités d'être quotidiennes de l'être-là sont à la discrétion d'autrui. Autrui, en ce cas, n'est pas quelqu'un de déterminé. N'importe qui, au contraire, peut le représenter. Seul importe cette domination subreptice d'autrui à laquelle l'être-là, dans son être avec autrui, s'est déjà soumis. Soi-même, on appartient à autrui et l'on renforce son empire. Les autres, que l'on nomme ainsi pour dissimuler le fait que l'on est essentiellement l'un d'eux, sont ceux qui, dans l'existence commune quotidienne, se trouvent être là de prime abord et le plus souvent. Le « qui » n'est ni celui-ci, ni celui-là, ni soi-même, ni quelques-uns, ni la somme de tous. Le « qui », c'est le neutre, c'est le « on ».
Le Heidegger de Être et Temps, tel qu'il fut lu, cité et popularisé par Sartre, c'est le philosophe de l'existentialisme. Qu'est-ce que l'existentialisme ? C'est une pensée, ou un courant de pensée, tout entier centré sur l'existence et l'existence de l'homme, telle qu'elle se donne immédiatement à lui-même, antérieurement à tout contact avec le cosmos et avec les sciences de la nature qui décrivent le cosmos, antérieurement aussi à toute psychologie et à toute morale. Cet homme, réduit à sa pure existence, c'est le fameux Dasein de Heidegger, ce que Corbin traduisait par réalité humaine, et qui veut dire l'être là de l'homme, certes, mais il vaut mieux dire l'être là parce que, justement, Heidegger ne parle pas, veut ne pas parler de l'homme en tant que tel, en tant qu'homme de l'humanisme. Et le Dasein, en tant que son existence a pour lui un sens, est un être en situation, comme disait Sartre après Heidegger, c'est-à-dire un être emporté par le temps et par les urgences du temps, un être de projet. Mais ceci en tant que son existence a pour lui un sens, car son existence peut aussi ne pas avoir de sens, elle est en effet guettée par le danger du non-sens, de la chute dans le domaine des simples objets qui sont platement les uns à côté des autres. Il ne faut pas que le Dasein de l'homme soit un objet parmi les autres objets, qu'il tombe dans l'inauthenticité et perde alors tout ce qui est promis à l'être. Toute une problématique de l'authenticité et de l'inauthenticité, du « on » et de l'angoisse, apparaît ainsi dans Sein und Zeit. Michelard, qui vient de nous lire un texte de ce livre, continue à nous en parler, et après lui, Henri Biraud parlera de l'être.
La question de l'être renvoie pour Heidegger à une analyse, l'analyse de ce qu'il appelle le Dasein, c'est-à-dire l'être-là. Qu'est-ce que l'être-là ? L'être-là est un être au monde qui n'est ni sujet ni objet, il a une unité en quelque sorte antérieure à l'objectivité avec le monde. Cet être-là, quand on le décrit, quel est-il le plus souvent ? Il est le plus souvent sur le mode inauthentique, dit Heidegger. Il n'y a pas là un jugement moral. L'inauthenticité, l'inauthentique, c'est l'existence sur le mode des autres. Par exemple, j'accepte les discours quotidiens comme normes. Mes possibilités sont déterminées par les autres. Je ne sais pas d'abord qui je suis. Alors le problème que se pose Heidegger, c'est comment cet individu, comment le Dasein peut-il être lui-même, peut-il trouver son unité ? D'autant plus qu'il est dans le temps, c'est-à-dire qu'il est toujours en avant de lui-même, toujours déjà là, il est en quelque sorte dans une dispersion. Alors le « on », c'est un élément de cette dispersion.
À quoi s'oppose,
une expérience que Heidegger, sur laquelle Heidegger s'est expliqué plus tard, et qui est l'expérience de l'angoisse. Alors il faut expliquer cette expérience de l'angoisse, car l'angoisse est le passage de l'inauthentique à l'authentique, c'est-à-dire le passage du on au soi. Heidegger explique l'angoisse en disant qu'elle est le sentiment fondamental de la situation, c'est-à-dire que toujours, à tout moment, je sais où j'en suis, L'angoisse est le mode fondamental de ce sentiment, c'est-à-dire que dans l'angoisse disparaissent toutes les finalités extérieures, tout ce que le monde me propose comme fin possible, et il ne reste plus que ce que Heidegger appelle l'être au monde comme tel, c'est-à-dire la pure présence comme un mystère et comme le fait, la tâche d'avoir à être, d'avoir à poser un projet propre, d'avoir à réapproprier à son nom, en mon nom propre, les possibilités qui sont d'abord les possibilités des autres. Donc l'angoisse arrache le Dasein à sa déperdition dans le on et lui permet d'être lui-même. Mais l'angoisse ne lui donne aucun contenu. Comment est-ce qu'il peut être lui-même? Eh bien, il faut une seconde dimension pour Heidegger, qui est la dimension de l'être pour la mort. On a aussi très mal compris la dimension de l'être pour la mort, puisqu'on l'a comprise comme une philosophie pessimiste qui visait simplement le néant. En fait, l'être pour la mort, c'est la visée d'une possibilité qui m'est absolument propre. Personne, dit Heidegger, ne peut mourir à ma place. Sur le plan du « on », tout est égal, tout est substituable, c'est-à-dire que je peux aussi bien aimer qu'un autre, je peux aussi bien parler à la radio qu'un autre, mais seul, je meurs, et cette mort n'est pas ma mort de fait, mais c'est mon pouvoir mourir. Mon pouvoir mourir m'habite, en quelque sorte, comme la possibilité d'avoir en propre un certain nombre de fins et de projets. Donc c'est la possibilité d'unifier son propre temps, sa propre temporalité, de trouver sa propre temporalité et de se projeter par anticipation vers sa fin, vers ce que la philosophie appelle la finitude. C'est d'assumer sa finitude à tout moment.
Qu'en est-il de l'être lui-même? Une première chose d'abord, c'est que le mot « être » doit être pris dans un sens verbal. Il s'agit du verbe « être » et non pas du mot « être » tel qu'il peut être entendu comme substantif, un être de telle ou telle nature, les êtres matériels, les êtres spirituels, ou même l'être suprême, ou même encore l'ensemble, la totalité des choses existantes, c'est-à-dire des êtres. Deuxièmement, si l'être n'est aucun être en particulier, si l'être n'est pas quelque chose, s'il n'est pas ceci ou cela, il faut encore ajouter que le verbe être doit être entendu lui-même à partir de l'expression « il est » ou « il y a ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser le « il est » ou le « il y a » à partir du verbe « être », de l'infinitif « être », mais au contraire, penser l'infinitif, le verbe « être », à partir de ces petits mots « il y a »,« es gibt ». Ce n'est aucune chose présente, c'est la présence de toutes les choses présentes et absentes. Car il y a une présence des choses absentes, comme absentes, qui peut bien l'emporter en présence sur la présence des choses présentes.
Alors les choses présentes, Heidegger les appelle les étangs.
Tout ce qui est étang. Tout ce qui est, à quelque titre que ce soit, sur la terre ou dans le ciel, de nature matérielle ou spirituelle, peut être, doit être appelé un être, ou plus précisément quelque chose qui est, quelque chose qui participe à l'être, et que par conséquent, on doit appeler le participe présent, c'est-à-dire un étang. C'est pourquoi la traduction de Das Sein par l'étang n'a rien en soi d'insolite et ne fait que respecter en quelque sorte cette idée que tout ce qui est prend part ou participe à l'être, à ce que vous appeliez tout à l'heure la présence, mais en comprenant bien que cette présence n'est nullement réductible à l'ensemble des choses présentes. Disons que cette présence, ou cet il y a, ou cet être ainsi entendu, se différencie profondément de tout ce qui est.
Ce qui est, nous venons de le voir, c'est l'étant. Par conséquent, se pose un problème qui est pour Heidegger le problème de la différence être-étant. Il faut d'abord comprendre que être et étant ne constituent pas les deux termes préexistants d'une relation seconde ou troisième qui viendrait s'instaurer entre eux. La relation est première, la différence est première par rapport à ce qui est différencié dans cette différence, c'est-à-dire l'étant qui ne cesse pas de se différencier par rapport à l'être. Et l'être lui-même est la puissance autodifférenciante par rapport à ce qui est. C'est en ce sens qu'on peut dire que par rapport à ce qui est, par rapport à l'étant, l'être est le non-étant. Étant en latin se dit ins, le non-étant ça sera donc le né-ins. Ce né-ins en français s'appelle le néant. Par conséquent, l'être comme il y a est, s'il est pensé à partir de l'étant, à partir de ce qui est le néant. Dès qu'il y a le il y a quelque chose. Dès qu'il y a quelque chose, il y a le il y a. L'un n'est pas l'autre, l'autre n'est pas l'un, mais l'un ne va jamais sans l'autre, et l'un n'est pas non plus le contraire de l'autre. Il est le tout autre de l'autre, mais il n'est pas son contraire.
La différence ontologique, voulez-vous préciser ce que c'est ?
Oh, la différence ontologique n'est rien d'autre que ce que je viens d'essayer d'évoquer, à savoir, pour le dire d'abord de manière très grossière, la différence entre l'être ou le il y a et l'étant ou le quelque chose. Le reproche que Heidegger ne cesse pas de formuler à l'égard de toute la philosophie, de la pensée ou de la représentation philosophique ou métaphysique comme telle, c'est qu'à chaque fois, elle trouve son point d'ancrage dans le quelque chose.